Voilà, nous allons aborder aujourd'hui le comportement du chrétien. Le chrétien peut-il faire de la politique ? Je pense que nous sommes situés dans un monde où nous pouvons agir, intervenir pour améliorer sa situation. Sans pourtant nous faire aucune illusion, le chrétien n'est pas la cheville ouvrière du changement du monde. Les puissances qui dirigent le monde sont trop importantes que pour que par les moyens que Jésus nous a donnés, nous dirigeons le monde. D'ailleurs, Jésus ne nous a pas demandé de diriger le monde, il nous a demandé de le servir. Regardons dans Romains chapitre 15, verset 9. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit « C'est pourquoi je te nourris parmi les nations et je chanterai la gloire de ton nom », il est dit encore « Nations, réjouissez-vous avec son peuple ». Et encore « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples ». Ésaïe dit aussi « Il sortira d'Ésaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui ». Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi pour vous abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Voilà, donc nous voyons que nous pouvons être transformés par le Saint-Esprit et abonder en espérance pour le monde. Dans quel sens ? Mais tout simplement que les nations, un jour, se tournent vers Dieu et le louent et chantent à la gloire de son nom. Et que tous les peuples célèbrent Dieu. Non pas qu'on est appelé à contraindre, obliger les peuples et les nations, mais simplement à prier pour eux, à avoir cette espérance, sans les contraindre. Et nous sommes appelés, bien sûr, à les servir, par le témoignage, par la parole. Bien sûr, si nous excluons tout moyen constantinien, c'est-à-dire politique, d'imposer l'adoration de Dieu, l'amour de Jésus, et l'attente de Christ sur la terre, il est exclu d'utiliser une insertion dans un parti politique pour imposer le christianisme aux autres. On doit donc agir dans l'espérance que les nations louent le Seigneur, et cela doit se faire, bien sûr, sans des moyens de contrainte et de domination, ou des moyens de ruse ecclésiastique, religieux ou politique. Regardons au chapitre 16, verset 20 de Romains. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Il est évident que dans ce monde, des puissances invisibles agissent. Et ce n'est pas parce que nous sommes gentils, nous sommes incarnés, nous avons de l'amour pour les autres, de l'amour pour la justice, nous nous unissons avec tous ceux qui aiment la justice et la paix, que nous allons arriver à briser Satan. Évidemment, et nous ne sommes pas naïfs à ce point-là. En tout cas, pour les chrétiens, seul Jésus-Christ brisa Satan, évidemment. Comme ça a été annoncé dans Genèse chapitre 3, verset 15, et Apocalypse chapitre 12, verset 10. Mais nous avons le pouvoir de retenir Satan, d'empêcher une partie de son action sur la terre. Comme la deuxième épître aux Thessaloniciens le dit. Nous regardons maintenant ce que Jean, au chapitre 3, nous enseigne. Jean, chapitre 3, versets 16 à 21. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous voyons que Dieu propose de croire en Jésus, en son Fils, pour avoir la vie éternelle. Mais croire, c'est adhérer. Dans l'évangile de Jean, c'est adhérer. C'est un acte libre et profond, impliquant tout le cœur, toute la personne. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc nous voyons que Dieu aime le monde, et que Dieu donne son Fils à la croix et pour que nous soyons un jour dans le règne de Dieu, sur terre et dans les cieux. Dieu veut nous sauver, il veut sauver le monde perdu. Dans Ésaïe 65, verset 1, Dieu dit ceci, 8 siècles avant Jésus, « Je me ferai connaître et je dirai, me voici, à ceux qui ne me cherchent pas. » Donc Dieu appelle à la foi en Jésus, mais sans la force d'un système politique ou sans la force d'un marketing, d'une publicité à grand tapage. Et ce jugement, regardant toujours Jean chapitre 3, verset 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, donc Jésus est lumière, il est sainteté, vérité, il n'y a pas de péché en lui, il est pleinement la manifestation de Dieu, qui est sans péché, sans mal, il n'y a aucun mal en Dieu, donc Dieu est lumière et Jésus, son Fils, est lumière, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Nous voyons qu'il y a un libre choix et qu'il y a des gens qui aiment les œuvres ténébreuses, les œuvres mauvaises, et qui ne veulent surtout pas que Dieu s'en mêle, ni Jésus, son Fils. Verset 20, « Quiconque fait le mal et la lumière, donc dans la version au Christ, ne vient point à la lumière, ne veut pas à Christ, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Et celui qui agit selon la vérité, donc en grec qui fait, proin, qui fait la vérité, vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc nous voyons que Dieu a offert Jésus sur la croix et est venu et a manifesté sa sainteté, sa grâce, son désir de nous sauver par Jésus. Et prouver tout son amour, mais qu'il nous reste à accepter ou à refuser. Et surtout à changer de vie, si nous acceptons. Quand nous refusons, c'est parce que nous aimons rester dans la vie mauvaise, dans la vie perverse. Les hommes ont des comportements et des agissements mauvais, et ils haïssent Jésus. Et c'est un choix du cœur, où les hommes ont des comportements qu'ils estiment mauvais et ils veulent changer et ils veulent renoncer, ils veulent aller dans le sens de Jésus, de l'enseignement de Jésus. Et donc, ces hommes-là, s'ils acceptent vraiment la parole de Jésus, dans Jean chapitre 5, verset 24, « Celui qui écoute ma parole la main pratique est passé de la mort à la vie et ne vient point en jugement. » Donc, l'homme régénéré, l'homme changé par la parole, l'homme sauvé par la parole et par Jésus ne se cache pas devant Dieu. Il ne se cache pas. Et il s'expose à la grâce pour être pleinement transformé, pleinement équipé. Donc le comportement du chrétien est un choix du cœur, de l'intelligence, suite à un appel de Dieu, suite au sacrifice sanglant et glorieux et rédempteur de Jésus. Et le chrétien peut avoir, bien sûr, une grande influence sur la terre, puisqu'il peut provoquer le questionnement des autres. Aimez-vous vos œuvres ténébreuses? Voulez-vous les voiler? Ou voulez-vous les dévoiler? Voulez-vous changer? Et Dieu rémunère, bien sûr, la foi, dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Cette foi en Jésus, cette foi dans la grâce, dans la conversion, et pour devenir enfant de Dieu, par cadeau immérité de Dieu, bien cette foi, Dieu la rémunère, il nous donne la vie éternelle. Hébreux 11, verset 6. Et dans Hébreux 11, verset 7, on voit que Noé était saisi d'une crainte respectueuse devant Dieu. Et nous voyons que Dieu condamna le monde, que Noé était prié d'avertir le monde. Donc, le chrétien aujourd'hui, s'il prend un engagement dans la société, doit pouvoir condamner les choses mauvaises, les choses perverses, les choses qui sont ténébreuses, qui ne viennent pas de Dieu. Mais il doit être pris lui-même d'une crainte respectueuse, en sachant que lui-même est un pécheur, que lui-même doit entendre et mettre en pratique avant le Dieu et vivre une pleine conversion tous les jours. Dans Hébreux 11, verset 9, nous voyons Abraham. Abraham est sur une terre étrangère. Il attend la cité céleste, préparée, réservée par Dieu, qui a des solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham attendait les choses promises. Il les a saluées et vues de loin. Donc, nous voyons que ce qui était dit dans Romains, au chapitre 15, versets 9 à 13, abonder en actions de grâce, abonder en espérance, c'est cela. Un homme chrétien aujourd'hui peut, s'il s'engage dans la société, dans les choses de transformation, il doit tenir compte des choses promises. Non par la politique, mais par Dieu. Il doit tenir compte de la cité céleste, qui a de solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc il n'est pas épris de lui-même et il ne glorifie pas l'homme. Le chrétien engagé dans la politique ne glorifie pas l'homme. Il salue et il voit de loin les choses que Dieu fera pour l'homme. Donc fondamentalement, l'agir de l'homme politique chrétien ne repose pas sur l'homme, mais sur la grâce. Dans Hébreux 11, 9, à l'époque d'Abraham, Abraham et sa famille, Sarah, ses enfants étaient étrangers et voyageurs sur la terre. De la même façon, un chrétien n'est là que pour un temps et il est toujours étranger à certaines choses. Il ne peut pas considérer en politique que tous les moyens sont bons, que pour améliorer la société vers les biens autres, on peut utiliser n'importe quel procédé, n'importe quelle ruse, n'importe quel détour. Il faut énormément de sagesse pour un chrétien, pour vivre en société et vouloir faire quelque chose avec les autres. Rappelons-nous que Lot, à Sodome et Gomorre, se tenait à la porte et essayait de faire du bien à la société, à Sodome et Gomorre. Lorsque les anges sont venus et ont logé chez lui, nous voyons que la foule se révoltait contre lui et ne le considérait pas avec respect. Nous avons vu aussi Jésus. On a accueilli Jésus sur l'âne, on l'a salué, puis après on a choisi Barabbas. Donc, le chrétien engagé dans la politique ne va pas se laisser griser et doper par le succès, par les flatteries, par les recensements, par les enquêtes, les statistiques, etc. Il va compter sur son Dieu, non pas sur un succès basé sur l'homme. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 10, le chrétien est sous la volonté de Christ. Il est sanctifié par l'offrande de Christ à la croix. Il est sanctifié par la volonté de Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et demain. Le chrétien est agi, il est sous la volonté, sous l'action même de Jésus. Il agit sans sa propre justice. Il agit dans la justice même de Christ. Et il est fort important que lorsqu'un chrétien est en politique, il ait une vie spirituelle extrêmement forte dans ce sens. Il est l'instrument de la grâce de Christ. Dans Hébreux chapitre 7, versets 24 et 25, le chrétien a un intercesseur puissant, un grand prêtre, unique. Il n'y a pas de prêtre humain sur la terre, de prêtre chrétien. C'est une invention de Saint Cyprien de Carthage en 365. Il n'y avait pas de prêtre, d'intercesseur, d'intermédiaire entre Dieu et l'homme avant 365. C'est une invention, bien sûr, de l'époque constantinienne, pour remplacer le prêtre païen de l'Empire romain. Le seul prêtre que nous avons est Jésus-Christ, le seul intercesseur capable de comprendre toutes nos faiblesses et d'y compatir et de demander à Dieu les grâces nécessaires. L'assistance de Jésus prévaut sur toute confiance dans des alliances humaines et dans toutes sortes de dérapages théologiques. L'assistance de Jésus prévaut. Aucune structure ecclésiastique, aucun sacerdoce humain ne donne les grâces nécessaires à un homme politique seulement Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui donne les forces nécessaires. Comme disait Paul, c'est quand Jésus disait à Paul, c'est quand tu es faible que je suis fort. Dans Philippiens chapitre 2, verset 10, il est dit que tout genou fléchira d'offléchir en Christ, devant Christ. C'est le principe de la subordination. Est-ce qu'un chrétien politique ne doit pas fléchir le genou régulièrement, dans sa pensée, dans son cœur, dans son âme, et même dans sa chambre, accepter cette subordination à Christ? Il n'est pas subordonné à un parti politique, il n'est pas subordonné à un pôle politique, il n'est pas subordonné à un désir d'ascension politique, à des passions politiques, à des objectifs idéalistes, romantiques ou autres, à une idéologie. Il est subordonné à Christ. Dans Philippiens chapitre 2, verset 10 et suivant, toute langue doit confesser Jésus comme Seigneur pour la gloire du Père. Ainsi, un homme politique doit pouvoir, à certains moments, parler de Dieu et rendre compte de sa foi, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Le principe de la confession du nom de Jésus, de son amour, de sa sainteté, fait partie de son engagement politique. C'est un principe clair, c'est un signe d'obéissance. Parce que la foi est obéissante, en Romains chapitre 10, versets 8 à 13. Si la parole est près de mon cœur, elle doit sortir de ma bouche. Et je dois confesser le nom de Jésus pour manifester mon salut. Dans Philippiens chapitre 2, verset 15, nous voyons que les enfants de Dieu doivent être irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Philippiens 2, 15. La parole de Dieu n'est donc pas idéaliste et n'est pas hors du réel. Donc un enfant de Dieu qui est dans la politique, dans un engagement politique ou social, doit savoir que sa mission doit être irrépréhensible aux yeux de Dieu, sans reproche aux yeux de Dieu. Et qu'elle fait sa trajectoire, son chemin, à travers une génération perverse et corrompue. Donc ça sera toujours un combat. Ça ne sera pas non plus tranquille. Ça sera toujours une source de contradiction. Et que dit encore la parole dans Philippiens 2, 15 ? Enfant de Dieu, irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue, dans laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Portant la parole de vie, on allume un flambeau pendant la nuit, dans l'obscurité, pour voir où on marche. Eh bien, donc, dans laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde est considéré comme un lieu obscur. Et apporter un flambeau, c'est apporter la parole de vie, la parole de l'Évangile, la parole qui sauve. Dans Philippiens chapitre 2, versets 1 à 8, Paul nous demande de ne rien faire par esprit de parti, par vaine gloire, de considérer les intérêts des autres comme supérieurs. Donc, voici des critères moraux extrêmement importants pour un homme politique, pour un homme engagé qui se dit chrétien, qui se veut être chrétien toute sa vie. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20, nous voyons que nous n'aurons pas lutté contre la chair, contre l'homme, mais contre les principautés, les forteresses et les dominations. Donc, le monde est habité de puissance invisible et... comme nous l'a enseigné Jésus, dans Matthieu 28, verset 20, « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. » La force du chrétien est en Christ. La force du chrétien est d'être avec Christ, en présence de Christ, continuellement dans son ministère, s'il a un ministère politique ou social. Un chrétien qui mettrait Christ de côté dans sa vie ne peut qu'avoir qu'un ministère humain, un ministère corrompu, soit dans la politique, soit dans le social. Donc, les œuvres humaines sans aboutissement et qui ne sont pas agréables à Dieu. Regardons dans Galates chapitre 5, verset 13. Galates chapitre 5, verset 13. Et nous allons voir que le sommet du comportement chrétien est tout simple. Chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Donc, si un homme s'engage en politique, s'engage dans le ministère social, il peut parler de liberté aux autres. Mais il ne sera pas compris de la même façon que dans l'Évangile. La liberté par rapport au péché, mais dans la société, c'est la liberté par rapport à tel ministre, par rapport à tel pouvoir, etc. Et c'est une liberté tout à fait relative, illusoire. Donc vous avez été appelé à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Donc nous voyons que l'homme politique ou l'homme social, chrétien, ne doit pas retomber dans le prétexte de vivre humainement. Il est pour une liberté, mais vis-à-vis du péché, vis-à-vis des ténèbres. Et le fleuron de son comportement, c'est « rendez-vous pour la charité, serviteurs les uns des autres ». Évidemment, beaucoup d'hommes politiques ou d'hommes chrétiens engagés dans le social se sont rendus excellents dans la charité et dans le service des autres. Mais au XXe siècle, on très peu parlé de Dieu ou pas du tout. Je me rappelle de l'abbé Pierre qui, en fin de vie, était interviewé à la télévision et on lui demandait « Mais père, pourquoi avez-vous fait tout cela? Vous avez passé toute votre vie à aimer les autres, à rendre service. » Et quand l'abbé Pierre a répondu « Je ne sais pas », eh bien j'étais extrêmement, extrêmement déçu. Il n'a pas dit que c'était à cause de Jésus, parce que Jésus lui avait demandé, parce que c'était le commandement suprême venu de Dieu. Vous voyez, l'abbé Pierre avait failli à son témoignage. Et beaucoup d'hommes dans le social, beaucoup d'hommes dans la politique, dits chrétiens, ne confessent plus Jésus. C'est le grand dommage. Toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais sachez bien que s'il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Jésus a bien dit, le premier commandement, ça c'était la seconde partie du premier commandement, plus important, mais tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Ça va ensemble. Il ne s'agit donc pas de dissocier. Et si on aime quelqu'un, on en parle. Si on n'aime pas, on n'en parle pas. Si on aime Dieu, on doit en parler. La première à Timothée, au chapitre 6, verset 3. Première à Timothée, chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses, des disputes de mots d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, croyant que la piété est une source de gain. Il peut arriver, et c'est déjà arrivé bien sûr, que des hommes politiques ou des hommes, des chrétiens dans le social, aient insisté énormément sur la piété. Et en s'attachant à de fausses doctrines, piété, prier Marie, baiser la main du pape, etc. Et faire des pèlerinages. Et très peu lire la Bible, en tout cas la lire à la manière que l'on l'apprend à Rome. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Et donc un homme politique, un homme dans le social, doit se garder d'être un bigot, d'être un homme religieux par tradition. Par tradition. Pourquoi ? Parce que dans 1 Timothée chapitre 4, verset 5, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Par la prière. Donc la parole de Dieu est nécessaire, le respect de la parole de Dieu dans son intégrité est nécessaire pour appliquer une vie de piété au sein d'un ministère social ou politique. Une piété sans un bon enracinement biblique peut être un désastre qui sert plus le diable que Dieu. Prenons la première épître de Jean, au chapitre 2, versets 14 à 17. Chapitre 2, versets 14 à 17. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement, donc Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous, vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc un homme qui est chrétien et qui est engagé dans le politique, va-t-il faire tous les gueuletons que le parti politique demande? Toutes les réceptions? Va-t-il prendre tous les chauffeurs et toutes les belles voitures qu'on lui propose s'il a une fonction élevée? Va-t-il chercher toujours à être en photo dans les journaux? Va-t-il chercher toujours à se montrer là où tout le monde se fait briller? Sur les terrains de football, dans les grandes manifestations patriotiques, en négligeant bien sûr tout le travail qui est à faire à côté. Donc le chrétien engagé va chercher à travailler pour le bien de tous, sans chercher forcément à se mettre en valeur lui-même. Regardons dans 1er épître de Jean, chapitre 3, verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Comme lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ, est juste. Que personne ne vous séduise. Donc, fondamentalement, tout homme peut être séduit un jour. Tout homme est fragile. Tout homme est pécheur. Il faut une relation forte avec le Seigneur, un grand amour de sa parole, une véritable connaissance de Christ pour mener un engagement politique ou un engagement social et ne pas se laisser séduire. Parce que les forces de séduction sont grandes, venant de l'extérieur ou de soi-même. Au chapitre 4, versets 1 à 6, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Il faut donc un discernement. Il faut une sagesse, il faut un don de Dieu pour pouvoir travailler avec des gens honnêtes, intègres, pour ne pas se tromper dans les alliances. Au chapitre 5, versets 17 à 21. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Toute iniquité est un péché. Une iniquité est un péché commis consciemment, sachant que Dieu l'interdit. Si un chrétien, par exemple, est ministre du commerce extérieur et signe des contrats de vente pour des armes, et que notre petite Belgique ou notre chère Wallonie met le feu et le sang dans beaucoup de pays, comme la Syrie, l'Irak, le Congo, etc., est-ce que ce ministre chrétien est vraiment chrétien? Est-ce que ce ministre ne devrait pas arrêter son ministère de ministre et choisir un autre poste, soit dans l'enseignement, la santé, etc.? Est-ce qu'un ministre, un homme de Dieu, peut accepter n'importe quelle fonction? Ou alors, s'il accepte cette fonction, doit-il signer et cautionner toutes les choses qui viennent? L'iniquité est chose courante en politique. Et il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort, à la rupture avec Dieu, mais il y en a qui mènent directement. Donc un homme politique
ne peut pas être prêt à tout faire pour plaire aux hommes et pour assouvir son désir d'ascension personnelle. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 4, voilà le problème de l'église d'Éphèse, hein, une grosse église, à la fin du premier siècle. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Finalement, un homme qui est rempli d'activité, qui a un poste important, qui est soucieux d'avoir un grand engagement, peut facilement abandonner son amour de Jésus pour aimer son engagement, pour aimer le monde, pour aimer la société, son parti politique, et s'égarer. Et que dit Jésus ? Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. L'église d'Éphèse ne l'a pas fait, et vous voyez que maintenant c'est l'islam qui est maître là. Beaucoup d'hommes politiques ont agi dans nos sociétés sans avoir aucun amour de Christ, même se disant chrétien, d'un parti chrétien, d'un parti politique chrétien. Et finalement, ils ont ouvert la porte à des choses qui sont opposées à Jésus-Christ. Regardons au verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. J'aurai tribulation 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Il se peut que dans certains pays, un chrétien doive donner sa vie. Il se peut qu'un jour, ici, dans notre société européenne, ça arrivera aussi. Regardons les versets 14 et 15. J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est simplement que dans cette église de Pergame, il y a des gens qui font de la sorcellerie, de l'occultisme, et qui enseignent à Balak, c'est-à-dire un homme politique, à faire des ennuis à Israël. Et on peut avoir aujourd'hui des chrétiens qui, des gens qui se disent chrétiens en politique, dans les affaires sociales, qui sont ouverts à l'occultisme, qui sont ouverts à toutes sortes de sciences divinatoires, et qui finalement n'ont aucun intérêt pour Dieu, et qui renient leur premier engagement, leur premier amour, et qui finissent par eux-mêmes à s'opposer au christianisme. Un grand basculement vers l'ennemi est toujours possible. Satan est très rusé, il peut agir profondément. Au verset 20 et 23, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Nous voyons dans cette église qu'une femme qui a des dons pour parler, soi-disant au nom de Dieu, et arrive à séduire et à diriger les responsables de l'Église pour qu'ils se livrent à l'impudicité, donc au manque de pureté, à celle-là, au manque de règles. Et vous voyez qu'il est possible aussi, dans l'engagement social et dans l'engagement politique, qu'un chrétien soit influencé par des séductions très fortes et tombe dans l'impudicité, dans l'impureté. Et il ramène dans son église, dans son assemblée, les problèmes énormes. Au chapitre 3, versets 2 et 3, « Sois vigilant, fermez le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé des œuvres parfaites devant mon Dieu. » Donc dans cette église qui paraît, l'église de Sartre, qui paraît vivante, où tout est mort quasiment, il reste quelques personnes attachées à Dieu, quelques personnes, mais qui sont sur le point de tout lâcher, de perdre la foi. Et il est demandé aux responsables, aux mandataires de cette église, de s'occuper de ces personnes et de changer sa façon de faire, qui est très imparfaite. Donc nous voyons que dans la société actuelle, peu de gens sont encore chrétiens. Et quand un chrétien a un engagement politique ou social, il se peut qu'il croit facilement que les églises sont profondément attachées à Jésus et vivent une grande repentance et une grande conversion. Et que tout compte fait, il met les pieds sur un terrain qui est complètement mort. Il y a très peu de... qu'il y a en réalité très peu de vrais chrétiens. Et il doit se réveiller. Cet homme ou cette femme doit se réveiller et il doit faire attention à ces âmes qui aiment encore Dieu, à ces âmes qui ont besoin d'être réconfortées, exhortées, instruites. Un homme politique aujourd'hui devrait, qui se dit chrétien, devrait toujours considérer que le christianisme est quasiment disparu d'Europe, qu'il n'en reste plus qu'une façade pourrie, et qu'il y a encore quelques âmes, comme au temps de la cape Jézabel, quand Élie combattait les puissances occultes, il y avait 7000 personnes, mais ça et là, il y a encore des gens qui aiment Dieu et qui veulent le servir. Et l'homme politique, l'homme qui se veut intègre, l'homme social qui se veut intègre, qui se veut chrétien, doit pouvoir compter sur ces personnes et aussi les aider, les exhorter, et veiller à leur bien. Nous allons regarder le verset 8, au chapitre 3, verset 8. Je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc c'est la petite église de Philadelphie et nous voyons que petite église sans puissance, qui ne fait pas grande impression dans la rue, qui n'a sûrement pas de grande cathédrale, basilique, de grand compte en banque, il n'y a pas toujours bonne presse, mais qui aime la parole de Dieu, qui cherche à évangéliser, et notamment Israël. Et cette église a une profonde relation, profonde bénédiction avec Jésus-Christ. Est-ce que l'homme politique aime le vrai chrétien? Est-ce que l'homme politique ou l'homme social chrétien a une attention spéciale à ceux qui aiment la parole, qui la mettent en pratique? Est-ce qu'il tient à favoriser, non pas dans l'injustice, dans le favoritisme, mais à favoriser la foi des vrais croyants, à la défendre? Verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » L'homme politique, l'homme social, chrétien, qui a cette qualité de garder la parole avec persévérance, en Jésus, dans le plus profond attachement à Jésus, est gardé par Jésus lui-même et va résister aux pressions futures, peut-être rapides, qui vont avoir lieu dans tous les systèmes politiques pour que Satan règne. Regardons toujours dans le même chapitre, chapitre 3, versets 15 à 20. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillon, puisque tu es de froid bouillon. Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillon, je te vomirai dans ma bouche. Et un peu plus loin, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc nous voyons que ces chrétiens de Laodicée ne connaissent même plus Jésus, que Jésus est hors de l'Église, que Jésus toque à la porte pour pouvoir revenir dans son Église. Est-ce que les hommes politiques et les hommes sociaux chrétiens ont bien conscience que Jésus est souvent hors de l'Église et qu'il veut revenir, qu'il veut revenir pour parler au cœur de chacun et sanctifier leur vie, rayonner dans leur vie, guider leur pensée, leur âme vers la sainteté? Est-ce qu'un homme politique, un homme social chrétien est attentif à cela? Que c'est le désir même de Jésus qui devrait être son désir à lui aussi, pour les églises. Regardons Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Ne vous conformez pas au monde présent, C'est facile à dire qu'à faire, mais Paul l'a quand même dit. Vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, adieu les orgies, adieu toutes les petites soirées intimes des hommes politiques, adieu toutes les compromissions, avec des balles, des sorties, etc., controversées. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc voilà le programme spirituel et moral de l'homme politique, comme de l'homme chrétien, bien sûr. Et donc, tout le chapitre 12, c'est à lire, bien sûr. Au chapitre 13, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu établit, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Nous constatons souvent, par les journaux de télévision, que beaucoup d'hommes ont fraudé, on trichait avec les lois, on soutenait d'autres dans des affaires dangereuses au niveau de l'argent. Et un homme politique chrétien ou un homme social chrétien ne peut en aucune façon encourager la corruption, ne peut en aucune façon encourager le désordre et la trahison des bons principes, sous aucun prétexte. Pourquoi, verset 4, le magistrat serviteur de Dieu pour ton bien, si tu fais le mal, crains. Il est donc, verset 5, nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont les ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ceux qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Voilà des principes de non-corruption fondamentaux chez les chrétiens engagés en politique ou dans les affaires sociales. Au chapitre 14, verset 1, faites accueil à celui qui est faible dans la foi, ne discutez pas les opinions. Donc, l'homme politique chrétien n'est pas un chicaneur d'opinions religieuses. Au verset 7, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Voilà donc des certitudes de base spirituelles qui doivent conduire l'homme qui veut servir la société. Verset 11, il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Verset 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Les soucis des hommes politiques sont souvent de satisfaire la population pour la nourriture, pour la boisson, pour les plaisirs, les jeux, pour la pension, pour la santé, etc. Est-ce que le souci d'un homme chrétien ne se résume qu'à cela? Aux besoins animaux, animalesques, les besoins de base. Est-ce que ce n'est pas non plus la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit? Voilà les priorités du serviteur de Dieu, du chrétien engagé dans le monde politique et dans le monde social. Que Dieu nous bénisse en méditant tous ces textes. Amen.